Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi politique. Notre invitée ce soir est la présidente du Front national. Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de l'actualité politique française. Nous reviendrons sur le programme d'économie proposé par le gouvernement. Ses 50 milliards d'euros est détaillé la semaine passée par Manuel Valls. Il sera également question de la situation internationale avec ce regain de tension en Ukraine. Avant cela, nous allons nous intéresser aux élections européennes à venir, ainsi qu'aux municipales. L'occasion pour nous d'évoquer les premiers pas des maires au Front National. À mes côtés pour vous interroger ce soir, Guillaume Dodin de l'agence France Presse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors débutons, Marine Le Pen, par un sujet d'actualité. Le gouvernement va annoncer demain un plan de lutte contre les filières djihadistes. Objectif, dissuader et punir les candidats français au djihad. Une annonce qui intervient 3 jours après la libération des otages français détenus en Syrie. Ces derniers avaient déclaré que plusieurs de leurs geôliers parlaient français à l'Institut du monde arabe. Ce matin, François Hollande a évoqué ce plan.
Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur travaille à un plan pour dissuader, empêcher, punir ceux ou celles qui seraient tentés d'aller livrer des combats là où ils n'ont pas leur place. Ce plan n'est pas fait pour empêcher l'acte de foi, mais il est fait pour que la religion ne soit pas utilisée à d'autres fins, et notamment la fin la plus abominable qui est le terrorisme.
Alors ce plan devrait comporter une vingtaine de mesures concrètes, comme le rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs ou la mise en place d'une structure ad hoc destinée à prendre en charge un jeune qui dériverait vers le fondamentalisme. Ce plan, vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, Marine Le Pen?
D'abord, je pense que le gouvernement joue les pompiers pyromanes. Car quel aveu quand même d'échec pour Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, pendant 2 ans. Ça ne date pas d'hier, ces départs pour faire le djihad. Ça fait déjà de nombreux mois que ces départs ont lieu, de nombreux mois qu'il existe des reportages, de nombreux mois que l'on sait qu'il y a des Français, entre autres, qui sont partis faire le djihad. Et pourtant, rien n'a été fait. Et on se réveille brutalement au dernier moment pour indiquer toute une série de mesures qui auraient donc dû être prises il y a bien longtemps. Deuxièmement, il y a une incohérence.
Est-ce que justement, c'est pas un problème difficile à traiter et que les mesures à prendre ne sont pas toutes forcément évidentes?
Non, mais c'est tout à fait évident. La preuve, c'est que il y a un certain nombre de pistes. Alors elles sont parfois incohérentes. Hein. Très bien remettre en place l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, mais dans ces cas-là, il faut rétablir le contrôle aux frontières. Donc là aussi, là, c'est déjà une incohérence. Deuxièmement, il y a une vraie incohérence de fond. La France, par la voix de l'UMP et du PS, d'ailleurs, puisqu'ils étaient main dans la main, une fois de plus, hein, a soutenu les fondamentalistes islamistes en Libye. Il a livré des armes, apporté une aide technique aux soi-disant rebelles syriens, dont on a appris par ailleurs depuis, enfin eux ont fait mine d'apprendre, car nous nous savions depuis longtemps, que 80 à 90% de ces rebelles étaient en réalité liés de près ou de loin par Al-Qaïda. Et aujourd'hui, on vient pleurer un petit peu sur le lerre renversé en disant « Mais pourquoi ces jeunes vont faire le djihad et vont s'engager auprès des fondamentalistes ? Mais pourquoi ne le feraient-ils pas ? Puisque le gouvernement lui-même les a soutenus quasiment en toutes circonstances, en tout cas en Libye et en Syrie. »
Il y a Monsieur Fabius qui a affirmé qu'il y avait une espèce de complicité objective entre d'un côté Bachar el-Assad et le groupe le plus radical qui sévit en Syrie, qui est l'État islamique en Irak et au Levant. Vous en pensez quoi?
Mais sur quoi s'appuie Monsieur Fabius?
Il s'appuie sur
pour
le
indiquer
fait...
quelque chose comme ça.
Il s'appuie sur
deux
les
éléments. Analyses américaines.
Sur le fait que Bachar al-Assad a libéré certains cadres de ce groupe dès le début de l'insurrection. Premier élément. Deuxième élément, sur le fait que l'armée régulière syrienne ne bombarde jamais les zones dans lesquelles se trouve ce...
Et ce groupe-là s'est retourné contre l'autre groupe, Al-Nusra. On a vu des tensions assez grandes entre ces deux groupes et des violences.
Moi, je ne connais pas les informations qu'a M. Fabius, mais je pense que M. Fabius se trompe en toutes circonstances. Il est comme les Américains, dont il est d'ailleurs un servile laquais, il faut bien le dire. Et comme à chaque fois que les Américains en matière géopolitique et géostratégique se trompent, je me permets d'avoir des doutes sur cette remarque. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons livré des armes. La France a livré des armes à ces rebelles djihadistes.
Mais
et encore une fois, aujourd'hui, s'aperçoit que l'intégralité des journalistes qui ont été enlevés l'ont été par des fondamentalistes islamistes, et fait mine de prendre un certain nombre de mesures qui ne sont pas à la hauteur d'ailleurs du problème. Car la réalité, c'est qu'il faudrait tout de suite mettre en place un certain nombre de peines. Peut-être d'ailleurs faire une loi spécifique contre le mercenariat. Ça existe dans un certain nombre de pays. Ça consiste à interdire à ceux qui ont la nationalité française d'aller s'engager dans un combat à l'étranger, soit pour des raisons pécuniaires, soit pour des raisons idéologiques. Accessoirement, l'on pourrait reprendre la très bonne initiative de Monsieur Cameron qui vise à supprimer leur nationalité française lorsque ils ont été convaincus d'avoir participé à ce type de combat. Et puis, je m'inquiète car je m'aperçois que l'on nous dit depuis des années que les mosquées sont contrôlées en France, que les discours qui y sont portés sont contrôlés. Je m'aperçois que ça n'est pas le cas, ce que je subodorais bien entendu. Et je tiens qu'il faudrait d'urgence arrêter, interdire purement et simplement les financements des mosquées par des pays étrangers, et particulièrement et au premier chef des pays étrangers qui sont eux-mêmes convaincus d'être des soutiens du terrorisme fondamentaliste islamique. Je pense évidemment en premier lieu au Qatar.
Vous évaluez à combien le nombre de djihadistes? On évoque un chiffre entre 250 et 500.
Oui, peut-être. Mais si 250, s'il y a entre 250 et 500 djihadistes, combien y a-t-il qui ne partent pas faire le djihad, mais qui soutiennent cette démarche? Il y en a quoi? 100 pour un qui part? 100 qui soutiennent cette cause? Combien y a-t-il donc sur le territoire national de gens qui soutiennent le djihad, peut-être pas avec les armes, mais à tout le moins, pour l'instant en tout cas, avec leur cœur? C'est quand même assez inquiétant de s'apercevoir de la mesure de ce danger sur le territoire national.
Mais ce que vous décrivez, c'est une complaisance de l'exécutif, du pouvoir actuel à l'égard de ces djihadistes? Je comprends pas bien.
Oui, je crois clairement il y a une complaisance pour des raisons d'ailleurs électoralistes. Ils ont tellement condamné ceux qui dénonçaient les fondamentalistes en faisant croire qu'il y avait un amalgame qui était fait entre les fondamentalistes et les musulmans qu'ils n'ont même pas pris la mesure de ce danger et donc mené le combat contre le fondamentalisme sur le territoire national, de peur peut-être de se voir accusés eux-mêmes de ce dont ils accusaient les autres, à savoir de faire un amalgame avec les musulmans. Donc que les choses soient très claires, moi je ne fais aucun amalgame entre les musulmans et les fondamentalistes. Et je dénonce ceux qui ne veulent pas mener le combat contre les fondamentalistes de peur de perdre une partie électoralement leur vivier d'électeurs.
Mais c'est un petit peu étonnant de dénoncer ceux qui ne veulent pas mener ce combat le jour où, pour le coup, un plan est présenté.
À la limite, François Hollande a eu des mots assez durs, quand même.
Qu'on puisse dire que ça va pas assez loin, que vous ayez d'autres préconisations.
Ça fait deux ans qu'ils sont au pouvoir. Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont soutenu l'aide aux fondamentalistes en Libye et en Syrie. Aide aux fondamentalistes apportée à l'époque par le gouvernement de Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'il y a deux ans, on parlait aussi de ces filières de djihadistes? On en parlait beaucoup moins.
On en parlait déjà. On en parlait déjà, ça fait de nombreux mois que l'on parle de cela. Encore une fois, je pense que le plan qui est proposé est un plan cosmétique, qu'il ne s'attaque pas au fondement du problème, il ne s'attaque pas effectivement aux discours qui sont prononcés dans certaines mosquées qui sont de véritables appels au djihad, il ne s'attaque pas aux recruteurs, il ne s'attaque pas au financement de la part de pays étrangers qui sont connus pour être des pays qui soutiennent le fondamentalisme terroriste. C'est si vrai, monsieur, qu'il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont dénoncé eux-mêmes le Qatar comme étant une nation qui soutient les fondamentalistes islamiques. Et pourtant, le Qatar continue à pouvoir investir dans des mosquées en France sans aucun contrôle. Ben, je crois que s'il manque cette partie-là au plan de monsieur Hollande, c'est qu'en réalité, ce plan est là pour faire parler, mais pas pour être efficace.
Alors, si vous voulez, on évoquera à la fin de cette émission les questions internationales et on reviendra notamment sur la situation en Syrie dans la seconde partie de cette émission. On va maintenant en venir aux élections européennes. Le scrutin a lieu dans un petit peu plus d'un mois. Quel message, Marine Le Pen, vous souhaitez faire passer à l'occasion de cette élection?
Je crois que la France est à la croisée des chemins. Si elle continue dans cette Union européenne qui a été conçue, construite, renforcée en toutes circonstances par l'UMP et le PS, alors elle ne sera plus la France. Elle sera une région européenne qui aura d'ailleurs moins de pouvoir que n'en a n'importe lequel des États d'Amérique. Et donc, si le peuple français veut retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire l'élément essentiel du processus démocratique, sa souveraineté politique, juridique, territoriale, législative, monétaire, budgétaire, alors ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est voter pour les listes bleu marine. Car sinon, on continuera à avancer dans une Union européenne qui est un carcan, qui est une prison pour les peuples et qui a de surcroît démontré son inefficacité, c'est le moins que l'on puisse dire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la sécurité des habitants.
On sait que votre objectif, c'est de placer vos listes en tête le soir du 25 mai. Si vous placez vos listes en tête, qu'est-ce que vous pourrez faire concrètement pour changer le quotidien des Français avec votre présence à Strasbourg ?
M'opposer à l'avancée de cette Union européenne. Bloquer, dans la mesure de nos moyens, toute nouvelle avancée de l'Union européenne. Et accessoirement, si une majorité se dégage, faire marche arrière, c'est exactement ce que nous voulons faire, défendre la France au Parlement européen, alors que l'ensemble des députés UMP, PS, Verts, Modem, etc., UDI, en réalité, enfoncent la France au bénéfice du renforcement de la puissance de l'Union européenne.
Mais alors justement, vos adversaires pointent du doigt votre manque de présence, votre absentéisme, ils disent que vous êtes une des députées les moins présentes. Alors vous savez, il y a ce site qui s'appelle VoteWatch qui recense un petit peu la présence.
Non, ça m'énerve pas du tout. Vous savez qui finance VoteWatch ? Faut quand même le savoir. Vos auditeurs ont besoin de le savoir. Monsieur Georges Soros, c'est lui qui finance VoteWatch. Non, mais ça permet peut-être d'accorder le crédit ou la légitimité.
Vous remettez en cause.
Mais bien sûr, non seulement je remets cela en cause, monsieur, mais j'ai écrit, j'ai fait une protestation solennelle auprès de VoteWatch dont ils n'ont tenu aucun compte, puisqu'ils mettent sur le même plan des députés qui appartiennent à des groupes et des députés non inscrits. Or, les députés non inscrits sont des sous-députés. Il y a toute une série de choses qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'on ne leur laisse pas faire.
On précise, non inscrits qui n'appartiennent pas à un groupe parlementaire.
Voilà. C'est ainsi que, par exemple, les députés non inscrits ne peuvent pas déposer d'amendements en plénière. Et pourtant, à amendement, ils nous mettent zéro. Ben oui, pour cause, on peut pas le faire. Bon, que les députés non inscrits, c'est rarissime lorsqu'ils peuvent obtenir un rapport. Vous imaginez le PPE, le PSE se mettre d'accord pour donner un rapport à Marine Le Pen.
Bon, selon ce même classement.
On voit bien sûr, que non. Donc, que les choses soient claires, moi j'ai été présente à plus de 80% aux séances plénières à Strasbourg.
Alors que le site de VoteWatch donne 67% de présence.
Oui, ils ont tort. Ils ont tort, mais le site de VoteWatch, encore une fois, n'est pas parole d'évangile. Hein. C'est un site qui est orienté politiquement. Je le dis, je le dénonce et je le démontre par le financement dont il bénéficie.
On peut comparer avec d'autres députés non inscrits, par exemple avec Bruno Gollnisch qui fait partie de votre parti. On voit qu'il a une activité beaucoup plus soutenue au Parlement européen.
Sûrement, mais Bruno Gollnisch n'est pas président du Front National. Et par conséquent, je suis exactement là où je dois être pour défendre la France et les Français. Je suis toujours là où je dois être.
Donc voilà. Ça veut dire que souvent, c'est ailleurs qu'au Parlement. Mais c'est pas... Vous tenez ça... les deux discours, en
non
fait.
Mais, non, mais je vous dis, j'ai réussi en étant présidente du Front National à être présent à 80% des séances plénières du Parlement. J'y suis toujours lorsqu'il y a des votes qui m'apparaissent importants ou lorsqu'il y a des majorités qui permettent peut-être de faire une bascule. C'est pas souvent parce que le PP et le PSE, c'est-à-dire la droite et la gauche, votent très souvent main dans la main. Mais voilà, je pense que encore une fois, et c'est peut-être j'en appelle à la confiance des Français, je suis toujours là où je dois être et je pense être le député européen qui, de tous les députés français, a fait le mieux connaître l'Union européenne aux Français. En a le plus parlé, quelles que soient les campagnes, y compris pendant la campagne présidentielle, où là, je vous avoue que pendant les six mois précédant l'élection, j'ai été beaucoup moins présente, c'est vrai, au Parlement européen. Il m'apparaissait que ma candidature à l'élection présidentielle française était beaucoup plus importante pour le coup que les séances plénières du Parlement. Les Français, j'en suis convaincu, m'en pardonneront.
Est-ce que Madame Le Pen, pour faire une majorité de blocage au Parlement européen, vous pourriez vous allier par exemple à des partis d'extrême gauche qui partageraient sur des votes des positions similaires aux
Mais
vôtres.
Nous n'avons pas besoin de nous allier. Chacun vote en fonction de ses convictions. Il nous arrive, c'est vrai, assez souvent, notamment lorsqu'il s'agit de s'opposer à la politique d'austérité mise en œuvre par l'Union européenne, de voir le parti de gauche, même le Front de gauche, voter comme le Front National. Oui, ça peut arriver. C'est le jeu de la démocratie, ça. Et ça me choque pas outre mesure.
Et alors, là, concrètement, pardon, vous avez 3 eurodéputés actuellement, vous en faites partie. Quel est l'objectif avant les municipales? Vous aviez été assez précise sur les objectifs que vous fixiez pour le scrutin, pour les européennes. Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été posé?
Non, je pense que notre objectif, je l'ai dit et redit, c'est d'arriver en tête aux élections européennes. C'est d'être le premier parti de France aux élections européennes.
Et en nombre de députés, une quinzaine?
Ça c'est assez difficile de vous répondre parce que le mode de scrutin rend les choses compliquées selon que vous arrivez en tête dans une euro-région ou non, c'est complexe à déterminer. Mais ce qui est important, c'est l'acte politique de mettre le Front National en tête de l'ensemble des listes en France parce que ça ouvrirait un vrai débat sur peut-on continuer alors que les Français mettent en tête un mouvement qui conteste l'Union européenne et que le PS et l'UMP ont imposé aux Français la Constitution européenne contre leur volonté. Ils avaient été 55% à voter non en référendum. Peut-on continuer sans redonner la parole au peuple, c'est-à-dire sans dissoudre l'Assemblée nationale?
Ça, c'est ce que vous réclamez depuis plusieurs semaines. Vous avez espoir que François Hollande puisse mettre en place cette dissolution. Ça paraît quand même assez hypothétique.
Et pourquoi pas? Comment va-t-il pouvoir continuer comme ça et combien de temps?
Il y aura un choc politique, mais est-ce qu'il y aura un intérêt pour lui à dissoudre?
Ah, vous considérez donc que ça n'est pas le résultat des élections qui pourrait justifier une action de François Hollande, mais uniquement son intérêt propre. Eh bien, en cela, je partage votre avis. Je pense que cette classe politique n'est intéressée que par son intérêt propre et ne prend des décisions que lorsqu'il s'agit de son intérêt propre. C'est peut-être vrai aussi pour la proportionnelle. Souvenez-vous qu'il y avait été une promesse de François Hollande et qu'il n'a toujours pas mis en œuvre, que peut-être il mettra en œuvre, comme l'avait fait François Mitterrand avant lui, uniquement pour se sauver lui-même, c'est-à-dire pour tenter de limiter la casse lorsque des futures élections législatives pointeront le bout de leur nez.
Alors, vous allez essayer de créer une coalition là, européenne avec d'autres partis nationalistes, d'autres partis d'extrême droite. Je sais bien que vous n'aimez pas ce terme d'extrême droite.
Mais nationaliste non plus, j'aime pas, mais...
Mais certains partis...
Patriotes, c'est très bien, voilà, ça suffit.
Du moins patriotes, enfin du moins certains partis d'extrême droite en Europe, certains le revendiquent leur appartenance à l'extrême droite. Vous essayez de créer...
Au bout de 3 extrêmes droites, vous avez le droit à une petite médaille en chocolat ou...
Je sais pas,
Un bon point, et au bout de 10 bons points, vous avez le droit à une image.
Mais non, on n'est pas...
Parce que vous êtes à 3, je le note. Hein,
on est encore libre de caractériser jusqu'à preuve de
contraire. Oui, non, voilà. Mais bien sûr.
Ces partis, et le Front National tente de créer une
Mais vous allez
une
nous
coalition.
Expliquer pourquoi extrême droite d'ailleurs, parce que vous caractérisez.
Pourquoi? Parce que par exemple, vos électeurs, quand on leur demande de se dire où est-ce qu'ils se situent sur l'échelle des partis en France, se situent le plus à droite. Donc peut-être qu'on peut dire ultra droite, comme vous voulez.
C'est pas vrai, car une grande partie de mes électeurs considèrent monsieur comme ni de gauche ni de droite.
Très bien, nous on dit d'extrême droite et voilà,
vous faites ainsi un acte politique qui vous met dans le camp, non pas des journalistes mais des militants.
Très bien.
Alors,
qui est toujours un plaisir.
On va y arriver. Vous allez tenter de créer une grande coalition à l'échelle européenne avec d'autres partis européens. Ce groupe parlementaire que vous espérez créer pour pouvoir avoir plus de poids à l'échelle européenne, pour pouvoir parler, faire mieux entendre votre voix au Parlement européen, vous en êtes où de la constitution de ce groupe parlementaire?
Eh bien, écoutez, nous sommes en négociation. Nous rencontrons un certain nombre de mouvements politiques et compte tenu de la proximité avec les élections, nous attendons maintenant que les élections aient lieu pour savoir si nos alliés éventuels auront eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, des élus, car ce sont les élections qui le déterminent, bien entendu. Moi, je suis très confiante dans le fait que nous puissions avoir, le 25 mai prochain, un groupe au Parlement européen.
Alors, il faut 25 députés de 7 pays différents, de 7 nationalités différentes. Le nombre de députés, a priori, ne devrait pas poser souci. C'est peut-être le nombre de nationalités différentes. Vous allez peut-être vous allier avec... vous m'arrêtez si je me trompe. Avec le Parti de la Liberté aux Pays-Bas, avec le FPO autrichien, avec la Ligue du Nord en Italie, avec Fratelli d'Italia en Italie, avec le Vlaams Belang, tous ces partis pourraient faire partie éventuellement d'une coalition.
Oui, ce sont des partis avec lesquels nous avons des relations, pour certains d'entre eux anciennes, des relations de confiance, des relations de travail, puisque un certain nombre d'entre eux sont d'ores et déjà représentés au sein de l'Alliance européenne des libertés, qui est un parti politique européen et non pas un groupe européen. Je sais que le fonctionnement est un peu complexe, mais avec lequel nous travaillons déjà, parce qu'ils ont déjà, pour certains d'entre eux, des représentants au Parlement européen.
Alors on va en reparler juste après, on va faire un petit point sur l'actualité, on va revenir dans 3 minutes pour revenir justement sur ces groupes parlementaires, ce groupe parlementaire que vous tentez de créer. On parlera également des élections municipales, du programme économique du gouvernement. On se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite.